Radio Okapi.
La présentation du journal Belinda Bousouma. Deux jours de plus pour les candidats députés provinciaux pour déposer leur candidature. La CENI n'a donc pas fermé ses bureaux hier comme initialement prévu et annonce quelques dates importantes à suivre dans un instant. La population de Lubero, Nord Kivu, n'a plus accès aux soins de santé adéquats. Situation consécutive à la grève des infirmiers de ce territoire depuis plus d'un mois. La société civile demande l'intervention des autorités compétentes. Et puis, ce matin, nous recevons le gérant de la Société des techniques spéciales qui se charge de la construction des centrales hydroélectriques pour électrifier Boutembo et Beni. Fénélon Kiangalouka nous parle de l'évolution de ce projet en seconde partie de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. La commission électorale accorde deux jours de plus aux partis politiques pour déposer leur candidature aux élections législatives provinciales. Par conséquent, les bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC n'ont pas fermé définitivement leurs portes hier mardi sur l'ensemble du pays comme initialement prévu. Pelle Kipela Mondo nous en dit plus.
La décision a été annoncée par le président de la CENI au cours de l'échange qu'il a eu hier au siège de la commission électorale avec les acteurs politiques de la majorité au pouvoir et de l'opposition. À cette occasion, Corneille Nanga a communiqué quelques dates importantes à ses interlocuteurs et à l'opinion. Ainsi donc, demain jeudi 12 juillet, c'est la fin de la réception des dépôts des candidatures aux élections provinciales. Le vendredi 13 juillet, tous les originaux des preuves de paiement doivent parvenir à la CENI au niveau des BRTC. Le mardi 17 juillet, publication de la liste provisoire des candidats à l'élection provinciale et le 25 juillet enfin, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections législatives, nationales et présidentielles.
Pendant ce temps, à Lubumbashi, des échauffourées ont opposé hier les militants de l'UDPS Tshisekedi à la police. D'après les responsables de ce parti, les militants se sont réunis devant le directoire pour accompagner leur candidat qui devrait se rendre au BRTC afin de déposer leur candidature à la députation provinciale. La police aurait surgi pour les disperser et les brutaliser. D'après le parti cher à Tshisekedi, le bilan fait état des deux militants blessés à l'aide de baïonnettes, trois arrestations et deux minibus qui attendaient les militants pour les amener au BRTC saisis par la police. Danny Kabongo, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Fédération de Lubumbashi, explique au micro de Paulin Munanga.
Nos combattants étaient vraiment mobilisés pour accompagner nos dossiers à la CENI au niveau de la permanence sur l'avenir Mwepu au bâtiment Mulongo. À notre grande surprise, nous avons vu quelques dips de la police qui sont arrivés en dispersant nos militants. La question qu'on s'est posée, nous avons vu plusieurs partis politiques aller à la CENI accompagnés par leurs militants. Mais pourquoi on doit envoyer la police pour disperser nos combattants qui ne chantaient même pas, qui attendaient que nos chefs terminent les dossiers pour nous amener au niveau de la CENI? Est-ce que c'est de cette manière que nous allons vraiment travailler pour arriver aux élections crédibles et apaisées? Je ne crois pas. Si réellement ils aiment aller aux élections, qu'ils laissent l'opposition travailler comme d'autres partis politiques qui ont déposé aussi leur candidature. Il y a trois arrestations, il y a des blessés graves, il y a quelqu'un qu'on a amené à l'hôpital et quelqu'un d'autre est avec moi ici dans vos studios pour vous montrer l'acte que la police vient de commettre au niveau de la permanence de l'IDPS.
Contacté, le commissaire provincial de la police dans le Haut-Katanga affirme que ses militants ont troublé l'ordre public en barricadant l'avenue Mwepu en lançant des pierres sur la police. Par ailleurs, le Conseil national de suivi de l'accord CNSA a présenté hier sa propre évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. C'était au cours d'une plénière de la tripartite à laquelle ni le gouvernement ni la CENI n'ont pris part. Cette évaluation fait mention de la non-application des engagements pris dans l'accord de la Saint-Sylvestre en rapport avec le processus électoral et la décrispation politique dans le pays. Selon l'évaluation du CNSA, certaines assignations du dit accord sont observées alors que d'autres peinent à se matérialiser. Des précisions avec Askenzi Biataoro.
Le rapport de CINSA présenté par son rapporteur indique que jusqu'ici, on assiste plutôt au respect strict des dispositions qui interdisent la révision de la Constitution et des recours au référendum, tel que stipulé dans l'accord du 31 décembre 2016. Le CINSA dit constater par contre que de plus en plus, certains acteurs politiques évoquent une possibilité d'un troisième mandat pour le président de la République, Joseph Kabila, chose interdite par l'accord. Dans le volet processus électoral, le CINSA dit reconnaître la fonte du fichier électoral réalisé par la CENI, nonobstant l'existence du rapport de l'audit de l'OIF qui révèle 16% d'enrôlés sans empreinte digitale. Le CINSA dit apprécier aussi la restructuration opérée à la CENI selon les recommandations de l'accord, tout en relevant le non-aboutissement jusqu'à ce jour du remplacement du délégué de l'UDPS. S'agissant de la machine à voter, le CINSA indique que cette question ne fait pas encore l'unanimité au sein de la classe politique. Ainsi, faute de l'absence de membres du gouvernement et du président de la CENI, les débats en plénière autour de cette évaluation n'ont pas eu lieu. Selon le président du CINSA, la CENI et le gouvernement seraient très occupés par les dépôts de candidatures dans des BRTC. Le CINSA annonce la reprise des travaux ce mercredi avec espoir de voir la CENI et le gouvernement répondre à l'évaluation faite à mi-parcours.
En plus bref, notez que le nouveau vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique est attendu aujourd'hui à Kinshasa pour une visite de 3 jours. Pendant son séjour en RDC, Hafez Ghanem rencontrera les autorités congolaises, les partenaires au développement ainsi que les acteurs de la société civile. Son calendrier prévoit aussi des visites de terrain pour apprécier l'évolution de certains projets financés par la Banque mondiale à Kinshasa et dans le Nord Kivu. Sachez que Hafez Ghanem sera accompagné de Franck Bousquet, directeur principal de la cellule Fragilité, Conflits et Violences à la Banque mondiale. Le nouveau vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique effectue là sa toute première visite en RDC depuis sa prise des fonctions. Retour au Nord Kivu. La situation est incertaine dans le nord du lac Édouard depuis les incidents ayant impliqué le week-end dernier les FARDC à la marine ougandaise. Dans une correspondance adressée au président ougandais lundi, le député national Muhindo Nzangi demande l'implication de Yoweri Museveni dans la résolution de ce conflit qui, d'après lui, risque d'avoir des conséquences graves. Bernardin Nyangi nous en parle.
Depuis ces incidents le 6 juillet dernier, aucune action n'est prise officiellement par le gouvernement congolais pour résoudre cette question par la voie diplomatique, déplore le député Muhindo Nzangi. Celui-ci pense que la marine ougandaise, qui aurait elle aussi déjà fait des arrestations de pêcheurs congolais, un fonds de commerce, donne des rapports biaisés à son président. Le député national congolais voudrait donc éclairer la question. Muhindo Nzangi.
Le sida du 6, c'est un sida grave. Il y a eu des échanges de tirs. L'armée congolaise a abattu un navire militaire ougandais. Bon, il y a eu mort d'homme. Le gouvernement congolais devait déjà agir par des voies diplomatiques. La marine ougandaise a malheureusement, elle aussi, fait des représailles sur les pêcheurs inoffensifs non armés congolais. C'est pour ça que j'ai proposé au président d'Ouganda qu'on puisse créer une commission d'harmonisation des textes réglementaires sur le lac Édouard. Il faut qu'il y ait des commissions mixtes de patrouilles.
Rappelons qu'environ 20 pêcheurs congolais restent portés disparus depuis samedi dans cette région du lac Édouard. C'était au lendemain de ces accrochages entre la force navale congolaise et des présumés marins ougandais qui ont fait au moins 5 morts côté ougandais et 2 blessés côté congolais. Jusque-là, les familles des disparus à Kavinyonge ne peuvent rechercher les leurs du fait que la zone est déclarée rouge. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
À ce propos justement, les autorités congolaises ont décidé hier de suspendre les activités de pêche sur le lac Édouard après des attaques de la marine ougandaise contre des pêcheurs congolais d'une part et les affrontements entre les armées congolaises et ougandaises de l'autre part. Selon nos confrères d'actualité.cd qui le rapportent, cette décision viserait à assurer la sécurité sur les eaux du lac Édouard après la disparition d'une dizaine de pêcheurs congolais suite aux attaques de la semaine dernière. Je vous le disais en titre, la société civile du territoire de Lubero, au Nord Kivu, dénonce les conséquences liées à la poursuite de la grève des infirmiers dans les structures sanitaires et hôpitaux de la place. Cette structure citoyenne indique qu'en plus du nombre insuffisant des structures sanitaires, la population n'a plus accès aux soins adéquats suite à cette grève déclenchée par les infirmiers depuis le 1er juin dernier. Ceux-ci réclament en effet l'amélioration de leurs conditions de vie, le paiement de leurs arriérés de primes de risque ainsi que leur mécanisation. La société civile appelle les autorités compétentes à agir pour sauver la population de Lubero exposée à plusieurs risques. Georges Katsongo, président de la coordination de la société civile de Lubero, a été joint par Christian Mapendano.
Notre structures sanitaires, notamment les hôpitaux ainsi que les centres de santé, accusent certaines irrégularités dans l'administration des soins aujourd'hui, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les centres de santé. Il y a vraiment une administration des soins qui est au ralenti, si bien que la population a des difficultés pour se faire soigner. Cette situation inquiète beaucoup la population du territoire libéraux, étant donné que d'abord les structures sanitaires sont suffisantes, et cela maintenant s'ajoute la grève. En fait, notre appel est au niveau des autorités compétentes pour que la situation des infirmiers puisse attirer leur attention afin de poursuivre les soins dans leurs structures respectives.
Entre-temps, au Kasaï central, le gouvernement provincial s'en va en guerre contre les médicaments périmés à la suite d'une opération lancée depuis la semaine dernière. Le ministre provincial de la Santé indique qu'une quantité importante des produits pharmaceutiques non éligibles à la consommation ont été saisis par ces services après avoir constaté que certains médicaments donnés aux patients ne donnent pas des résultats attendus. Il était nécessaire de les retirer de la vente, soutient le docteur John Bimvoulou. Il est au téléphone de François Kadima.
Nous voulons assainir le secteur pharmaceutique pour que les médicaments que l'on vend à la population centre-cassaïenne soient des médicaments de qualité, bien conservés et qui donnent le traitement, donc la guérison quand quelqu'un est malade. C'est comme ça que l'équipe est composée des inspecteurs de l'inspection médicale provinciale et du ministère. On est descendu sur le terrain pour contrôler tous les médicaments périmés, pour retirer les étalages. Et c'est ça l'opération que nous sommes en train de faire sur la ville de Kananga. Nous allons étendre ça dans les 5 territoires. L'équipe était descendue sur le terrain, nous avons eu des résultats escomptés et je pense que l'opération va continuer. C'est une opération qui va être permanente pour pouvoir assainir la personne de pharmacie dans la ville de Kananga et la ville de la province. Et il y a des médicaments périmés, ils sont des commerçants, ils vendent. Et nous avons retiré tout ce qui est périmé dans les pharmacies. Donc la semaine prochaine, nous aurons une réunion avec tous les détenteurs de pharmacie pour pouvoir discuter la ligne de conduite, pour pouvoir entrer dans la politique du gouvernement de l'Unicambaye à ce qui concerne les médicaments.
Santé toujours, bientôt sera déclarée la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Elle a fait plusieurs victimes entre mai et juin dernier dans les zones de santé de Bikoro, Iboko ainsi que dans la ville de Mbandaka dans l'Équateur. Aujourd'hui, plusieurs orphelins se plaignent de leur situation après le désengagement du gouvernement et des partenaires. C'est le cas de la famille de l'infirmier Sébastien Longobo. Il est décédé le 20 mai alors qu'il s'occupait des malades à l'hôpital général de référence de Bikoro. Ses enfants qui ont parcouru 128 km à pied jusqu'à Mbandaka lance un SOS à l'endroit des autorités et de la communauté humanitaire. Hugues Bokambulu Longobo, l'un des enfants, explique au micro de Paul Richard Malengela.
Notre papa a été décédé depuis le 20 mai à Bikoro parce qu'il a été en contact avec le malade à l'hôpital général de référence et il a été inhumé le même jour. On avait posé des plaintes chez les autorités de Bikoro. Ils nous ont dit que vous n'aurez rien. Il est mort à cause d'un accident du travail, donc il part comme ça. On a fait des Bikoro en Mbandaka, 128 km en pied. Nous sommes venus poser les cas, le coordonnateur national chargé de l'Ebola. Il nous a donné des promesses qui n'étaient pas réalisables. Et maintenant, moi qui vous parle, je suis finaliste du premier cycle à l'ISP Mbandaka. J'ai plusieurs petits frères qui sont à l'école primaire, les autres en CO. Donc nous souffrons. La maman est restée veuve. Nous n'avons rien. On dépendait que des papas. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et on a même entendu quand cette maladie était en Guinée, on avait même indemnisé les autres familles. Pourquoi pas nous? Et même ici à Yamoukou, on avait pris les orphelins en charge. Pourquoi pas ici en Mbandaka? Est-ce que le gouvernement congolais, l'OMS, vous ne pouvez pas nous prendre en charge? Comment est-ce que nous pouvons vivre?
Actualité Afrique Monde.
La Côte d'Ivoire se dote d'un nouveau gouvernement après la dissolution du précédent le 4 juillet dernier. Une équipe gouvernementale élargie, passant de 35 postes de ministres et de secrétaires d'État à 41. Cependant, pas de grands changements par rapport au gouvernement précédent. Il s'est simplement ouvert à des personnalités favorables au parti unifié, cher au président Ouattara. Ce projet est source de tensions entre le RDR du président Ouattara et son allié au sein de la coalition au pouvoir, le PDCI d'Henri Colin-Bédier. Malgré les tensions, tous les ministres du PDCI ont été reconduits. 10 nouvelles personnalités favorables au parti unifié font leur entrée. Le coordinateur de l'ONU pour le processus de paix au Proche-Orient demande à Israël de revenir sur sa décision de fermer l'unique poste frontière commerciale avec la bande de Gaza. Nikolaï Mladenov s'inquiète des conséquences de cette mesure. Le gouvernement israélien a décidé d'interdire toutes les exportations depuis la bande de Gaza et de limiter les importations à l'aide humanitaire. Dans l'enclave palestinienne, cette nouvelle mesure suscite beaucoup d'inquiétudes. Sachez que la décision d'Israël est une réponse au cerf-volant incendiaire envoyé depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien ces dernières semaines.